l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga.
Alors on est au Festival Climax de Bordeaux, toujours une espèce de mine d'intervenants tous plus intéressants les uns que les autres. Et il y en a un, alors je ne t'ai pas vu en conférence parce qu'en fait tu animais une conférence, tu ne parlais pas, mais en cherchant qui tu étais, Benjamin Joyeux, j'ai vu une définition et je me suis dit, bon mais rien qu'avec la façon dont il se présente, on a une émission et on va intéresser nos auditeurs avec toute une série de sujets. Parce que Benjamin Joyeux, toi, tu te considères comme journaliste indépendant et juriste de l'environnement, écologiste libertaire, ça, on a un sujet en or, alter-européen et alter-mondialiste à tendance gandhienne. Ça, c'est super. Donc, dans une première partie de l'émission, on va parler, je pense, que de ça. Et dans une deuxième, on va peut-être voir ce que tu fais concrètement aussi, puisque tu es l'un des trois auteurs du Manifeste des écologistes altérés. Et tu es cofondateur du mouvement citoyen et de E égale MP2, le mouvement pour la planète. Et tu es aussi un cofondateur du REV, là qui pour le coup est connu, le REV, R-E-V. C'est un rassemblement des écologistes pour le vivant. Les gens trouveront tout ce qu'il faut sur le net. Tu bosses pour un média en particulier ?
C'est pas mon métier principal, le journalisme, c'est plutôt une passion que j'exerce à côté de mes activités professionnelles. J'écris dans divers médias comme Mediapart, Euractiv. Je fais souvent plus des tribunes que des articles parce que mon côté militant politique revient souvent, donc du coup...
T'es pas trop publié.
Comme disent les journalistes autorisés, je suis pas toujours très objectif, mais bon, finalement, comme les questions écologiques sont très à la mode aujourd'hui, hein, n'est-ce pas ? Je vais finir par être complètement mainstream, donc je vais peut-être pouvoir bosser pour des médias plus importants ensuite.
Juriste en droit de l'environnement, là par contre, c'est quelque chose que tu fais régulièrement ?
Non, ça c'était mes études. J'ai fait du droit jusqu'en, on disait DESS à l'époque, et j'ai fait un DESS de droit international de l'environnement à la fac de Limoges. Donc j'en ai gardé quand même quelques réflexes de juriste et quelques connaissances des grands textes internationaux de protection de la nature. Il y en a plein d'ailleurs. Il y en a plus de 250 conventions internationales sur les droits de la nature qui sont très intéressantes et qu'on ne met pas du tout en... Enfin, tout le monde s'en fout alors qu'elles existent, donc c'est dommage, je trouve. Donc c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, ça. Mais j'ai été pendant 10 ans assistant parlementaire, donc c'est, dans le cadre de ces fonctions, j'ai quand même eu l'occasion de faire du droit de façon professionnelle.
Et alors donc là, on va commencer à arriver dans le dur. Écologiste libertaire, va falloir que tu m'expliques, toi, ce que c'est qu'un écologiste libertaire.
Alors un écologiste libertaire, c'est un écologiste qui défend avant tout la liberté au sens général et les libertés individuelles, parce qu'il y a différents courants dans l'écologie. Et il y a des mouvements écologistes qui se rapprochent dangereusement de l'extrême droite. Par exemple, une phrase de Pétain qui disait « La Terre ne ment pas ». Avec ce genre de propos, on peut très bien être écologiste et d'extrême droite. Et au nom de l'écologie, fermer les frontières, notamment aux étrangers. C'est des concepts qui, encore en France, n'existent pas trop, mais dans les pays anglo-saxons, ces tendances au fascisme écologiste existent quand même. Il y avait un film comme L'Armée des Douze Singes, je crois, qui parlait très bien de ça. Quand je dis écologiste libertaire, c'est vraiment au sens d'essayer de concilier le mieux possible la possibilité d'une vie agréable sur Terre, c'est-à-dire qui respecte la nature et qui cesse de massacrer le vivant, tout en permettant aux individus de pouvoir exercer librement ce qui est quand même un des droits les plus fondamentaux de chaque être sur cette planète, c'est sa liberté, amoureux de la liberté. Et j'aime pas non plus des tendances, bien que je me sente proche de pas mal de copains insoumis sur pas mal de sujets, l'écologie dirigiste qui viendrait d'en haut suivant un leader suprême, c'est pas mon truc non plus. Disons que quand un leader apparaît en quelque part et qu'il me demande de le suivre, mon premier réflexe c'est de le critiquer et de pas le faire. Enfin, quand du moins je leur conteste leur moralité ou leur comportement. Parce que j'étais militant au Parti politique français des Verts pendant 10 ans. J'ai toujours été très critique des différentes directions parce que je trouvais qu'elles n'étaient pas en adéquation avec mes propres idéaux. Voilà, je suis très, exigeant en termes d'éthique. Donc si on me demande de suivre un dirigeant, il faut que je puisse l'admirer un minimum pour pouvoir le suivre.
Un des grands problèmes des Verts qui n'ont jamais réussi justement à suivre un chef pour arriver à s'imposer dans le jeu politique actuel. Malheureusement, c'est leur force, c'est d'avoir plein de chapelles et du coup beaucoup d'idées qui émergent. Mais à la fois, ça a été leur faiblesse extrême dans le jeu politique actuel. Et dès qu'un Vert arrive au pouvoir, en général, il n'est pas soutenu par ses bases.
En fait, on a eu quelqu'un qui a pu être le chef à un moment donné et qui est par définition même du libertaire, c'est Danny Cohn-Bendit. La campagne des européennes de 2009 était une magnifique campagne où justement à la fois on a su mêler écologie et sobriété heureuse, dynamisme, épanouissement. Pour une fois, cette campagne avait donné envie aux gens d'être écologistes avec le sourire. Et c'est pas pour rien que pour la première fois, les écologistes avaient eu plus de voix que le Parti Socialiste et qu'on avait envoyé 15 eurodéputés au Parlement européen. On sortait d'un Grenelle de l'environnement de Sarkozy qui était une grosse opération de com', mais qui quand même avait mis sur la table ces questions-là. Et on était dans une phase juste après de la crise financière de 2008. On n'était pas comme aujourd'hui dans l'effondrement. On pensait encore que c'était peut-être temps de mettre en place quelques idées écologiques et qu'il fallait le faire maintenant. Et du coup, il y avait moins de gravité autour de l'écologie. C'était moins pesant. C'est-à-dire, on pouvait, moi qui m'appelle Joyeux, en plus j'ai un peu une obligation patronymique à espérer. Et on pouvait encore espérer. Alors qu'aujourd'hui, c'est...
Alors, c'est intéressant parce que ce retour en arrière sur 10 ans, c'est une réalité de terrain. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, en effet, on avait des scientifiques qui disaient « il est possible, il faut faire ça ». Et maintenant, à peu près tous les gens, les mêmes, on va dire, qui il y a 20 ans, ont dit « attention, le climat va changer ». Attention, 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 on ne les a pas écoutés. Et maintenant, tout le monde dit « eh ben, ça y est ». On disait qu'on allait droit dans le mur, ben là on est quand même très très près du mur et donc il y a un effondrement qui arrive. Alors toi tu te places dans quelle chapelle ?
Oh ben, moi j'essaye à mon petit niveau d'être le plus résilient possible, mais...
Comment ?
Sur le changement personnel, sur le développement personnel qu'on voit un peu partout, sur les nouveaux régimes végétariens notamment. Je suis devenu végétarien, j'essaye de méditer dès que je peux, de limiter drastiquement ma consommation, mes déplacements.
Et toi qui a vu l'importance des lois, qui a vu l'importance de la politique, tu t'es résigné au point de dire « je construis, moi, ma résilience et il n'y a plus rien à espérer du collectif ?»
Non, j'ai lié les deux. Quand je dis « écologiste, la tendance gandhienne », c'est qu'en fait, moi j'en suis venu à l'écologie après ma découverte de l'Inde et des mouvements gandhiens de défense des petits paysans sans terre. C'est paradoxalement, j'ai dû aller jusqu'en Inde pour comprendre, de retour en France, que la seule idée politique nécessaire et qui avait du sens aujourd'hui était l'écologie. Et donc, ce que j'ai appris des mouvements écologistes en Inde, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours été très critique une fois rentré en France et en Europe des mouvements écolos, c'est la fameuse phrase de Gandhi « commence par être toi-même le changement que tu veux voir dans le monde ». C'est un truc, c'est la maxime de mon entrée en politique. C'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas percé, que je suis resté assistant et que je n'ai jamais réussi à monter trop en politique. Ne pas mentir, ne pas trahir, essayer d'être le plus en accord avec les idéaux qu'on défend. C'est aussi pour ça que j'ai été déçu de différentes directions, des Verts, plusieurs fois, parce qu'on pouvait me reprocher de me positionner ainsi pour, je ne sais pas, être chef d'une minorité, alors que c'était vraiment, au fond de moi, je sentais bien qu'il y avait un décalage entre les idées prônées et les comportements personnels des gens. Donc c'est ça qui m'a un peu déçu en politique.
Donc être le changement soi-même, quelle est pour toi l'issue ? Quelle est l'espérance ? Quel est le but à atteindre, d'après toi, pour le collectif que nous représentons tous ?
Pas de commencer par être soi-même le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc si on veut voir un changement global pour sauver la planète et les êtres vivants qui sont dessus, dont nous sommes quand même partis.
En fait, il y a plein de gens qui adhéreront jamais. Enfin, on le sait qu'on ne rapprochera pas tout le monde à ça, parce qu'il y a l'ultra-consumérisme, c'est une réalité, et plus qu'il y a 20 ans.
Bien sûr, mais c'est pour ça que j'en suis arrivé après 10 ans de tergiversation, de réflexion politique, à vouloir absolument drastiquement concilier le comportement individuel, éthique et moral, et le comportement collectif, où il faut arriver à un moment à prendre des interdictions maintenant, avant que demain, on doive en prendre des bien pires. Enfin, je veux dire, on va nous traiter de, de néo-fascistes quand on va dire par exemple qu'il faut interdire le plastique. Moi je suis pour l'interdiction du plastique tout de suite, là maintenant, si j'étais au pouvoir, je dirais on interdit le plastique, on ne tergiverse pas, on interdit le plastique. Pareil, on interdit la chasse. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou ce genre de loisir entre guillemets d'aller tirer sur des animaux alors qu'on en massacre déjà pour manger 65 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins par année. Donc ça suffit, on arrête de tuer des animaux. C'est ce genre de choses, voilà, c'est des décisions politiques qu'ils font prendre, quels que soient les individus. Quand François Mitterrand décide d'abolir la peine de mort, il n'attend pas que tous les Français soient d'accord. Il y avait à l'époque 60% des gens qui étaient contre l'abolition de la peine de mort. Et il l'a fait quand même. Donc, par exemple, là, un des trucs qui, moi, me révolte, c'est quand on est sur la route et qu'on voit non-stop des rangées de camions traverser le pays, alors que tout ça devrait être sur des trains et que les gens devraient voyager en train.
Et que tout ce qui est dans les camions pourrait être produit là où il passe.
Exactement. Donc à un moment, même les comportements individuels, aussi éthiques soient-ils, même s'il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent dans des AMAP, qui achètent bio et qui cultivent leur jardin, tant qu'on a ces camions... en 2016 et 2017, les émissions de CO2 en France ont augmenté. Elles ont augmenté. C'était ce qu'a dit Nicolas Hulot quand il a démissionné sur France Inter. Objectivement, elles ont augmenté. Donc on va dans le mur et on accélère. On est dans un véhicule en train d'accélérer vers le mur. Donc c'est pour ça qu'il faut concilier un peu action individuelle et décision politique collective.
Très bien. Donc on va voir dans quoi tu t'inscris. Mais avant, on va faire une petite pause musicale et c'est toi qui vas choisir ce qu'on va écouter. Je ne te l'ai pas demandé à l'avance, mais d'accord, tu vas trouver de manière impromptue comme ça ce que tu as envie d'écouter.
Comme musique, là, tout de suite. J'écouterai bien Alléluia de Jeff Buckley.
Ça marche.
Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. This floor, you know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Well, there was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, 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 hallelujah,
Nous voilà de retour avec Benjamin Joyeux. On a vu dans une première partie d'émission avec lui ce qu'était un journaliste indépendant, juriste en droit de l'environnement, écologiste libertaire, alter européen. On n'en a pas trop parlé, mais bon, c'est une autre Europe est possible et plus au service du peuple, évidemment, et de l'environnement, je suppose.
Oui, entre autres, mais c'est surtout... c'est le gros truc qui m'a fâché avec la France insoumise, c'est je ne suis pas pour que la gauche en revienne au souverainisme et qu'on en revienne à avant la première internationale. Je suis foncièrement internationaliste, j'en ai rien à carrer des frontières. Je suis révulsé par le sort qu'on fait aux migrants pour des histoires de frontières et des histoires de peur politique. C'est dégueulasse de laisser des gens mourir dans la Méditerranée, des femmes et des enfants. C'est un des trucs qui me remue le bide le matin quand j'entends les chiffres, surtout qu'on sort des chiffres alors que ce sont des êtres humains faits de chair et de sang comme nous. Et nous, on est les réfugiés de demain parce qu'on n'est pas du tout à l'abri d'avoir une... Si demain une centrale nucléaire, ce qui peut tout à fait arriver, hein, on n'en parle jamais, mais nous pète à la gueule et qu'on doive traverser les frontières pour aller dans un autre pays et qu'on se retrouve dans la même situation qu'aujourd'hui les réfugiés syriens, on dira quoi quand ils nous fermeront leurs frontières? On aura l'air de quoi? C'est une des questions fondamentales du 21e siècle et on la traite comme des gougnafiers. Comme anecdote quand même, lors de la fameuse tempête de 99, la centrale du Blayais, qui est donc pas loin, à cause d'une inondation et de la tempête, le préfet avait quand même eu un coup de fil pendant la nuit pour envisager le déplacement de toute la population du bassin bordelais. Ça avait été envisagé. Et personne n'en a jamais parlé de ça. C'est des secrets d'État comme ça, mais c'est un scandale.
Donc, tu l'as dit dans la première partie d'émission, toi, après 20 ans de militantisme, comme beaucoup, tu dis, bon, ben voilà, on vous avait dit qu'on irait dans le mur. Ben là, on y est très, très près. Mais tu continues quand même à agir avec d'autres et dans plusieurs groupes même. Donc, tu es, entre autres, un des trois auteurs du manifeste des écologistes atterrés. 5 minutes pour nous dire ce que c'est que ce manifeste.
Alors, le manifeste des écologistes atterrés, c'est quand on était encore au sein d'Europe Écologie Les Verts, avec mon ami Édouard Godot, qui est un Européen convaincu, qui a été un des assistants du professeur Guéret-Mecq et qui a été une des plumes de Danny Cohn-Bendit. Édouard Godot, qui a l'Europe chevillée au corps, et c'est un de ses combats de toujours. On a écrit une tribune d'abord dans Mediapart, suivi de ce petit bouquin du coup qu'un éditeur nous avait demandé, avec Lucille Schmitt, qui est par ailleurs une des fondatrices de la Fondation pour l'écologie politique, qui est une des premières fondations consacrées pleinement à l'écologie politique en France. Ce petit livre de réflexion, on essayait d'analyser pourquoi, alors que l'écologie devenait de plus en plus importante dans la tête des gens, les mouvements écologistes baissaient dans les intentions de vote, voire étaient en train de disparaître. Et une des analyses, c'était de dire qu'ils n'étaient pas à la hauteur des attentes qu'avaient les gens sur ces questions-là.
Et c'est ça qui vous atterrait ?
Entre autres, oui. Ce qui nous atterrait, c'était que... Moi, j'ai appelé ça l'égologie. On faisait plus d'égologie que d'écologie, ou Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire qu'on n'était plus que dans des batailles d'égo, des batailles de petits chefs, alors qu'on parle de l'avenir de la planète. Donc, les histoires de Cécile Duflot, Jean-Vincent Placé, François Durugy, Barbara Pompili, tout ça, je m'en tape complètement. Enfin, ces personnalités... aussi brillante soit-elle ou pas d'ailleurs, Je veux dire, c'est pas ça le sujet, c'est pas ça le problème, mais c'est aussi un peu le jeu un peu pervers des médias qui joue aussi à ça. On prend l'exemple récent de Nicolas Hulot, sa démission, on nous en a fait des tartines sur l'homme Hulot, sur ses états d'âme, on a fait de la psychologie de comptoir, et personne, peu de monde, si ce n'est dans les milieux militants, a quand même parlé du fond de ce qu'il a dit, de son constat qui était un constat implacable et lucide, surtout de la part de quelqu'un qui, justement, avait essayé de faire de la politique avec tout le monde en essayant de dépasser les clivages partisans, qui a fait un constat implacable du système économique néolibéral qui est incompatible avec la nécessaire sauvegarde de la planète. Quand quelqu'un comme Nicolas Hulot dit ça, à un moment, il faut qu'on se réveille collectivement. On n'est pas dans le... On s'en fout de la psychologie ou de la personne de Nicolas Hulot. C'est son constat qui est important. En politique, ce n'est pas les personnes qui sont importantes, ce sont les idées qu'elles portent. C'est pour ça qu'on fait aussi un procès sur les lobbies. Très bien, mais le lobby en tant que tel, c'est un instrument, le lobby. Il peut y avoir des lobbies positifs. Quand Greenpeace, WWF ou Emmaüs France fait du lobby auprès des institutions pour qu'on s'occupe mieux de la planète ou des pauvres, c'est aussi du lobby. Mais moi, c'est un lobby qui me va. Quand c'est un lobby au service de l'intérêt général et du mieux-être pour tous, moi, je suis pour le lobby. Le problème, c'est les lobbies qui vont contre l'intérêt général pour des intérêts particuliers, comme celui des chasseurs, et Kerry Coste, en plus, qui était tout fier d'annoncer que ça ne le dérangeait pas de tuer Bambi, sa mère et son père. Enfin, des gens comme ça devraient être en prison au lieu d'être dans les sacs de pouvoir, c'est quand même fou. Mais aujourd'hui, le premier des lobbies, c'est Emmanuel Macron. Le problème, c'est une mentalité générale faite encore de néolibéralisme, de croissance infinie, dans un monde qui est aux ressources finies. Donc, des enfants de 5 ans comprennent qu'une croissance infinie sur une planète finie, ça ne marche pas, mais par contre, nos dirigeants ne comprennent pas. À un moment, je ne sais plus quoi leur dire.
Tu es également cofondateur du mouvement citoyen, alors citoyen au pluriel et avec un S majuscule à la fin.
Ah, ça, c'est avec toujours mon ami Édouard Godot, puis d'autres comme Nathalie Laville, Rodrigo Arenas. Rodrigo, qui a une personnalité forte, qui passe pas mal dans les médias en ce moment, parce qu'il est président de la FCPE du 93 notamment. Et donc. Il a un discours assez clair sur la nécessité de s'occuper aussi de nos mômes dans les quartiers difficiles, parce que là aussi l'éducation nationale est en train d'être paupérisée de façon honteuse, alors qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Donc oui, avec cette petite bande, c'était suite au dernier congrès qu'on a fait ensemble à Pantin, où on s'est aperçu que la machine politique Europe Écologie Les Verts était irréformable ou... ne correspondait absolument plus à nos exigences politiques, qu'on est parti ensemble pour fonder ce petit mouvement. Et voilà, et on continue à militer dans ce mouvement pour donner la voix à ceux qui, sur le terrain, concrètement, font des choses écologiques, cultivent leur jardin, s'inscrivent à des AMAP, promeuvent d'autres façons de se déplacer. Que ces gens-là, en fait, c'est juste un instrument pour leur permettre à eux de faire de la politique, sans passer par le filtre des représentants. Puisque nous-mêmes, ayant été déçus par nos représentants, on s'est dit autant directement demander aux gens de se présenter.
Donc vous leur donnez des outils, quel genre d'outils? Vous leur dites quoi?
Il s'agit déjà de leur dire que ce que vous faites est politique, donc allez-y, quoi, passez le pas, franchissez le pas. Si, à l'échelle locale, ça, surtout pour les prochaines municipales notamment, c'est engagez-vous, qui disait, allez-y, n'hésitez pas, on voit bien qu'on peut compter de plus en plus que sur nous-mêmes, puisqu'on ne se sent plus représenté, donc il faut y aller, à un moment, il faut arrêter d'hésiter, la politique ne doit pas être réservée aux pourris, aux opportunistes et aux pervers.
Moi, il me semble que c'est ce discours de dire que ce ne sont que des pourris et des pervers qui fait qu'on a laissé la place aux pourris et aux pervers, et que tous les gens de bonne volonté ne sont pas allés à la guerre, parce que c'est pas facile, c'est une vraie guerre, pour prendre la place et pour faire avancer des idées neuves.
Il faut arrêter aussi avec le discours tous des pourris, enfin, comme dans tous les milieux, c'est comme dans le milieu associatif, le milieu des entreprises, il y a de la concurrence, il y a des gens pas bien, mais il y a des gens très bien. Et quand on trouve qu'il y a trop de gens pas bien, et ben on y va. À un moment aussi, il faut responsabiliser les gens.
Donc les citoyens, avec un S majuscule à la fin, E égale MP2, c'est quoi ça?
C'était le nom qu'on avait trouvé juste avant, toujours avec cette petite bande, avant citoyen, parce que c'était un petit hommage à Einstein. Parce que Einstein a été l'auteur de phrases géniales, comme notamment celle qui explique qu'on ne peut pas résoudre les problèmes avec les solutions qui sont à l'origine des problèmes que l'on doit résoudre. Donc à un moment, il faut avoir de nouvelles idées et de nouvelles propositions. Donc E égale MP2, parce que l'écologie, c'est un mouvement pour ma planète. Et on voulait souligner le fait que l'écologie, par définition, se devait d'avoir une vision planétaire, en fait. L'écologie part de l'assiette. elle part de son comportement personnel, mais il faut avoir comme ligne d'horizon la réflexion mondiale, parce que la pollution ne s'arrête pas aux frontières. C'est là-dessus aussi que je disais libertaire, dans le sens où, pour moi, l'idée de frontière est une idée désuète aujourd'hui face à tous les enjeux auxquels l'humain est confronté. Et donc, se recroqueviller derrière ces frontières, c'est ce qui mène à la guerre de tous contre tous. Et malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui partout en Europe et ailleurs dans le monde. L'Inde est dirigée par un gouvernement d'extrême droite. À la Maison-Blanche, il y a un fou furieux, enfin, j'ai même envie de dire un beauf, c'est un beauf qui dirige la plus grande puissance de la planète. Un type qui ne lit jamais, qui passe ses soirées devant la télé et qui mange tous les soirs un Big Mac, il envoie son assistant chercher dans un McDonald's. Enfin, tout chez Trump est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc c'est assez pratique, c'est une boussole qu'indique le Sud quand on veut aller au Nord. À l'époque, je me souviens, quand c'était Sarkozy, je me disais que c'était une bonne boussole politique aussi, parce qu'il fallait faire le contraire de ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Mais il a trouvé son maître. Hein. Donald Trump, là, ça dépasse vraiment, c'est le télé-réalité tous les jours. C'est peut-être ce qui restera de plus pathétique de l'époque que l'on est en train de vivre.
Et donc, on va finir avec ce mouvement politique dont tu es cofondateur. C'est le rêve, le rassemblement des écologistes pour le vivant.
Ce mouvement, je l'ai fondé avec Émeric Caron, parce qu'on s'est rencontrés. Émeric m'a dit que lui, il était journaliste et éditorialiste, donc la politique, ce n'était pas son monde, mais que tous les bouquins qu'il a sortis, notamment antispécistes, il avait des centaines de personnes qui, au moment des dédicaces, lui demandaient pourquoi il ne voulait pas fonder un parti politique. Et à force que les gens lui demandent, il s'est dit « bon, ben, faut peut-être le faire ». Il s'agissait de traduire politiquement cette vague sociétale qui monte un peu partout, de gens qui deviennent végétariens, qui deviennent véganes, qui changent leur comportement personnel. Mais ce comportement personnel, il faut lui donner un débouché politique, notamment sur la cause animale et sur la cause de la défense du vivant. Et malheureusement, on s'aperçoit que tous ces gens qui lisaient les bouquins d'Émeric Caron et qui lui demandaient de fonder un parti ne se reconnaissaient pas, notamment dans les Verts. Parce que sans doute, les Verts ont raté quelque chose sur la cause animale, ne sont pas allés assez loin ou n'ont pas compris, ou compris trop tard, que cette question fondamentale était peut-être la meilleure porte d'entrée pour l'écologie politique. Il y a plein de portes d'entrée pour l'écologie politique. Il y a le tiers-mondisme, il y a les questions LGBT, il y a toutes ces questions-là. Mais finalement, la cause animale, qui est quand même l'ensemble des autres espèces que l'espèce humaine, quelque chose de fondamental.
C'est la base de toute la pensée écologique dans les pays anglo-saxons en particulier. Exactement. Surtout en Angleterre.
Exactement. Et sans doute, je pense que toute la réflexion lancée par des gens comme Peter Singer n'a pas été prise suffisamment au sérieux par les mouvements écologistes en France. Et donc, on s'est dit avec Émeric que ça valait le coup, que ça serait dur parce qu'on n'a pas un rond, que c'est fait avec des bouts de ficelle et pour l'instant qu'avec de bonnes volontés. Mais en quelques semaines, on a dépassé les 3000 adhérents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a autant d'adhérents qu'Europe Écologie Les Verts, alors qu'on n'a pas de moyens financiers, qu'on n'a pas de structure, qu'on n'a pas de locaux et que c'est basé que sur de bénévolat de la plupart des gens engagés. Mais aujourd'hui, on a un bureau de 10 personnes, on a plein de jeunes, plein d'énergie, plein de gens chouettes, et des gens qui sont en demande aussi de réflexion politique sur d'autres sujets, parce que s'ils en viennent à l'écologie par le véganisme ou le végétarisme, après, il y a toutes les autres questions qui se posent, la question du travail, la question de l'égalité homme-femme, toutes les autres questions. Le problème, sans doute, des partis animalistes jusqu'alors, c'était d'être monothématique. L'idée du rêve, c'est d'être un parti profondément animaliste, mais antispéciste. C'est-à-dire, après le combat pour l'égalité entre les hommes, contre le racisme, pour la fin de l'esclavage, après le combat pour l'égalité homme-femme, le féminisme, l'écoféminisme et tout ce combat fondamental, le combat du siècle qui vient, c'est le combat pour les animaux non humains, parce que même le terme animal est un peu compliqué. Ce qu'on disait tout à l'heure au débat avec Virginie Maris, c'est qu'il faut en finir avec l'anthropocentrisme, il faut en finir avec l'idée que l'homme est au centre de tout et qu'il peut décider de l'avenir de tout ce qui l'entoure sur cette planète, alors qu'il en est partie intégrante.
Après, et ce que vous développez beaucoup aussi, j'ai vu, c'est que en arrêtant cette consommation animale, on règle beaucoup de problèmes écologiques.
Bien sûr, puisque la première émission de gaz à effet de serre sur la planète, c'est la consommation de protéines animales, c'est l'élevage.
Alors l'élevage, c'est pas simplement le pied des vaches, comme on le dit souvent, c'est la culture des céréales qui vont les nourrir, c'est l'acheminement des céréales qui vont les nourrir, c'est l'acheminement des bêtes vers les abattoirs ou vers d'autres lieux d'engraissement, et c'est la distribution ensuite de la viande. Ce n'est pas que les vaches en elles-mêmes ne sont pas un problème, il ne faut pas toutes les exterminer.
Non, bien sûr que non. Et c'est l'accaparement des terres, et c'est la monoculture, et c'est la pollution des sols, et c'est la désertification, enfin il y a plein de... Il faut bouffer directement les céréales, au lieu de les donner à des vaches pour qu'on bouffe derrière les vaches. Enfin, tout ça n'a aucun sens à l'échelle planétaire. Donc, à un moment, il faut juste, sans parler d'éliminer complètement la viande tout de suite, même si, personnellement, j'en serais plutôt partisan, de tendre vers un régime végétal pour les êtres humains. On peut très bien vivre avec un régime végétal aujourd'hui. Donc.
Un petit mot de la fin, Benjamin Joyeux.
Moi, j'aime bien la phrase de Gramsci, il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Et comme en plus j'ai une obligation patronymique à essayer d'être joyeux.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.